Merci beaucoup Jean-Marc, et c'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici avec vous ce matin et voilà, la semaine dernière aussi d'ailleurs, c'était déjà un plaisir vraiment de se sentir accueilli, et on sait aussi tout le cœur que vous avez donc dans l'accompagnement que vous réalisez. Nous sommes très sensibles à votre accompagnement dans tout le projet dans lequel nous sommes engagés, donc sur Paris. Et c'est tellement précieux pour nous de savoir que nous ne sommes pas seuls, mais qu'à 500 km de là, eh bien, il y a une église. Il y a un pasteur, un couple pastoral et une église, en fait, qui nous soutient dans la prière et dans la communion fraternelle. Et c'est tellement précieux, en fait, pour nous que de vivre cela. Alors tout d'abord, merci beaucoup déjà pour cela, de nous accompagner. Depuis notre première visite ici en 2014, nous nous sommes sentis accompagnés par vous. Et puis, plus particulièrement encore ces derniers temps, cette dernière année, dans tous ces changements qui sont en train d'arriver pour nous sur Paris. Donc, ce sont des changements forts, effectivement. C'est une église, comme vous le savez, qui aspirait, après un changement, nous parlions de changement ce matin, un changement, changement de local. Voilà, ça fait plus de, je ne sais plus bien compter, en fait, Michel, 60 ans, quelque chose comme ça. Et puis, en plein confinement, à la suite du premier confinement le plus dur, ce local qui s'est ouvert, et petit à petit, en fait, les choses se sont mises en place. Depuis le début, nous avons prié que la volonté de Dieu se fasse, et nous avons vu effectivement les obstacles en fait se lever les uns après les autres. Le plus difficile, le plus persistant a été celui de la banque, qui a été vraiment un obstacle avec de multiples étapes. Mais nous avions reçu donc juste avant Noël, en fait, le fait que voilà, il y avait cet accord de la banque. Et puis début janvier, la banque nous a dit oui, mais alors rebelote. Mais le 17 février, nous avons eu les clés. Et c'est vraiment un changement fort dans lequel nous nous projetons avec l'Église de Paris. L'Église, ce n'est pas qu'un bâtiment, c'est un bâtiment pour se réunir, et c'est tellement important. Et dans la ville de Paris, c'est tellement compliqué. Mais au-delà de cela, c'est tout un projet en fait spirituel dans lequel le Seigneur nous conduit, et nous nous attendons à vivre des changements forts, c'est clair. Voilà, donc c'est toute une construction dans laquelle nous sommes engagés, et merci encore pour tout votre soutien dans ce domaine-là. Donc là, en ce moment, la période d'été, eh bien, ce sont les travaux. Donc l'entreprise qui, à la différence de nous, ne prend pas de vacances, donc continue d'effectuer les travaux donc sur place, et puis ce sont des commandes en fait de mobilier, de différentes choses en fait qui devront être là pour le premier week-end de septembre, où nous envisageons le premier culte, et donc une inauguration mi-octobre. Pour laisser un peu le temps aussi à ce que nous puissions nous acclimater dans nos locaux. Donc vous êtes invités aussi, bien sûr, à venir vous joindre à ces moments festifs. Et nous serons tellement heureux de vous accueillir, vraiment avec joie. Alors, cette année, je ne sais pas si le PowerPoint, en fait, ouais, ça marche, super. Cette année en particulier, alors, pour nous, vous l'avez compris, une année de changement, mais je le crois, en fait, d'une façon beaucoup plus large. Et dans la préparation de ce message, en fait, comme Jean-Marc m'a proposé de faire le message aujourd'hui, en fait, la semaine dernière, il a mentionné Héraclite d'Éphèse, qui finalement disait « mais il n'y a qu'une seule chose qui est permanente, c'est le changement ». Alors, ça fait tilt, et je me suis dit « mais voilà le thème, en fait, que j'aimerais développer aujourd'hui ». Jean-Marc a entretenu le suspense tout à l'heure en disant, mais est-ce que c'est Gilles, est-ce que c'est Anne-Marie qui allait prendre la parole? Parce qu'effectivement, Anne-Marie a aussi l'occasion et aime prendre la parole pour partager la prédication. Et alors souvent, eh bien, c'est aussi, quand je présente un message, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est né de, voilà, de notre interaction à tous les deux. Et donc ce matin, eh bien, c'est le cas. Donc une année qui invite au changement, voilà, globalement, dans le contexte dans lequel nous avons été toute cette année, depuis 18 mois, je dirais, avec le contexte de la pandémie, vous n'auriez pas imaginé, en fait, vivre ce que vous avez vécu ces derniers 18 mois, je le crois. En tout cas, personnellement, non. Des changements en termes de travail. Personnellement, je travaille, comme vous le savez, chez Peugeot. On avait en fait une règle qui permettait de prendre quelques jours de télétravail par an, mais il fallait demander l'autorisation à sa hiérarchie. Et depuis en fait 18 mois, c'est plutôt le contraire, il faut demander l'autorisation à sa hiérarchie pour venir sur site. Un changement. Avec l'Église, vous avez découvert aussi la vie de l'Église en ligne à travers le Zoom, et vous continuez à le vivre à travers la réunion de prière. Nous aussi sur Paris, c'est quelque chose que nous avons découvert avec beaucoup de bonheur, j'avoue, parce que ça a permis vraiment à des personnes qui ont à cœur de vivre les réunions de semaine, eh bien, de pouvoir vraiment les vivre, alors qu'auparavant, et parfois on le comprend bien évidemment, quand il s'agit d'une famille, d'une femme seule, par exemple, élevant des enfants, comment se joindre en présentiel à une réunion de prière? Voilà. Un changement avec beaucoup, voilà, beaucoup de participation, beaucoup de plaisir, en tout cas, à le faire ensemble. Un changement de la vie d'Église. Et puis, dans nos vies personnelles, combien de changements ont été occasionnés donc, cette dernière année? Et puis, plus globalement, en fait, le changement, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, je dirais, sociale, même politique. Combien de présidents ont été élus sur un programme de changement? Je me souviens tout simplement d'un thème qui était « Le changement, c'est maintenant », pour n'en citer qu'un. Mais en réalité, combien n'ont pas parlé de changement? Pendant la pandémie, nous avons aussi beaucoup entendu de personnes dire « Ah, mais vraiment, ce temps me fait réaliser que voilà, je ne souhaite plus vivre exactement de la même manière que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Je souhaite vraiment, et en particulier parmi les chrétiens, peut-être parmi vous aussi, des personnes qui ont dit « Mais vraiment, ça me fait réaliser mon besoin de Dieu ». Mon besoin vraiment de scruter les Écritures davantage, de prendre davantage de temps avec Dieu. Et puis aujourd'hui, j'allais qualifier ce temps quasiment de post-pandémique, même si bon, voilà, c'est pas encore tout à fait fini. Mais il y a eu quand même une reprise, je dirais, de la vie normale entre guillemets. Est-ce facile vraiment, véritablement, de changer? Est-ce facile en fait de mettre en place les changements que l'on avait espérer, que l'on avait souhaité mettre en place? Et puis, quelque part, quand nous entendons, et peut-être nous-mêmes, de quoi rêvons-nous aujourd'hui, si ce n'est peut-être de reprendre la vie normale d'avant? J'ai trouvé cette... vous savez, là, c'est une crêperie, en fait, qui s'appelle « Au bon vieux temps ». Combien de nostalgie, parfois, exprimons-nous par rapport au bon vieux temps? Alors, j'aimerais dire ce matin, comme cela a été largement déjà signifié dans ce culte, eh bien, c'est que le changement est quelque chose de salutaire. C'est quelque chose d'extrêmement important, quelque chose de salutaire. Ce que la Bible dit du changement. Tout d'abord, j'aimerais simplement rappeler que la première chose qui se passe dans nos vies, eh bien, est vraiment, en tant que chrétien, c'est quelque chose, en fait, qui est basé sur le changement. C'est vraiment un changement extrêmement fort, qu'on appelle même une nouvelle naissance. Quel changement plus fort qu'une nouvelle naissance ? La naissance, avant, il n'y a rien, et ensuite, il y a un être vivant. Dans Jean, au chapitre 3, verset 3, quand Nicodème vient voir Jésus, et Jésus lui dit « Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Nicodème lui demanda « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus répondit « Oui, je te le déclare. C'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. La nouvelle naissance, quel fondement pour notre vie ? La première chose, c'est justement le changement. Mais le changement, ce n'est pas on naît de nouveau et puis voilà, c'est terminé. Non, le changement, c'est en réalité tout au cours de notre vie. Par exemple, on voit cela dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, verset 17, on peut le prendre. Le Seigneur, ici, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Donc le changement, c'est quelque chose en fait qui se produit toute la vie. Et c'est important, justement, on comprend bien que ça fait vraiment partie du plan intégral de Dieu que non seulement de naître de nouveau, mais aussi, j'allais dire chaque instant de chaque jour, en tout cas chaque jour, de pouvoir être dans cette logique de changement. Combien de personnages bibliques pouvons-nous voir qui ont été en proie au changement ? On peut se rappeler tout simplement d'Abraham. Abraham, au jeune âge de 75 ans, en Genèse, chapitre 12, a été invité par le Seigneur à quitter son pays, le pays d'Ur, en Chaldée. Vous imaginez, je le répète, 75 ans, vous êtes là, en fait, dans votre vie, installé depuis toutes ces années, vous vivez en famille, avec les vôtres, vous avez une réputation, vous avez tout un parcours de vie qui est là, et puis va, pars de ce pays. Si on parle de changement, en tout cas, en voilà un. Et puis, ça ne s'arrête pas là avec Abraham, vous le savez bien. Une quinzaine d'années plus tard, à l'âge de 99 ans, le Seigneur lui dit « Mais tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. » Donc nous voyons cela en Genèse, au chapitre 17. Un changement de nom, changement en fait d'identité. Le nom est vecteur de l'identité. Il a une signification particulière. Père d'une multitude de nations, Abraham. Voilà, et tant d'autres personnages. On peut penser à Joseph qui a, je dirais, subi là des changements. Vendu par ses frères, oublié en prison, et puis à la fin, source de salut pour sa famille. Et si tous ces personnages, Abraham, David, Moïse, n'avaient pas accepté le changement ? Et si Abraham était resté Abraham ? Il était resté dans son pays d'Ur, en Chaldée. Il n'y aurait pas eu toutes ces promesses qui auraient été accomplies dans sa vie. toutes ces promesses qui ont mené finalement au peuple d'Israël eh bien, de conquérir la terre promise. Et si David n'avait pas accepté le changement de devenir roi d'Israël, il serait resté berger, gardant les moutons toute sa vie. Et si Moïse n'avait pas accepté ce défi de revenir en Égypte pour libérer le peuple, que serait-il advenu ? À chaque fois, la clé, c'est un changement. Et si nous n'acceptions pas les changements que Dieu nous propose, que se passerait-il ? Peut-être un emploi, peut-être un poste, en fait, que nous n'aurions pas. Peut-être des défis, en fait, que le Seigneur veut que nous relevions et que nous ne relèverions pas. Tant de choses, en fait, qui sont basées sur le changement. Et pourtant, combien de réticences avons-nous face au changement ? Ce matin, nous avons chanté notre désir de changer. C'est un chant, c'est quelque chose que nous avons prononcé de nos lèvres, que nous avons confessé. Qu'en est-il véritablement dans nos cœurs ? Quand nous sommes confrontés au changement, est-ce que nous l'acceptons facilement ? Ou est-ce qu'au contraire, nous avons des craintes ? Des craintes en se disant, mais que va-t-il advenir ? Je suis habitué donc, à un certain nombre de choses, mais si ces choses changent, si ces choses évoluent, qu'en sera-t-il ? Aujourd'hui, je dois dire que, personnellement, je suis dans un contexte professionnel très particulier. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit que je travaillais chez Peugeot, mais je ne travaille plus chez Peugeot. Je travaille chez Stellantis. Est-ce que vous avez entendu parler de Stellantis ? Certains disent oui. Bravo, mais ce n'est pas le cas de tous. Stellantis, en fait, c'est un nom assez inconnu, mais qui regroupe en fait les anciennes sociétés PSA, Peugeot, et puis Fiat Chrysler. Et donc c'est un mastodonte en fait qui produit donc 8 millions de véhicules par an dans le monde, qui est né de ce regroupement entre Fiat Chrysler et Peugeot. Et quand on parle en fait de fusion d'entreprises de cette taille, eh bien vous pouvez imaginer en fait les remous qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et donc, je suis responsable, en fait, d'une entité de contrôle de gestion sur l'informatique. Eh bien, je vous assure qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On est vraiment, en fait, dans un contexte de changement. Donc, il y a des orientations importantes qui ont été prises par la société. Mais nous, petits services au milieu de cette grande entreprise, comment allons-nous vivre véritablement ce changement ? Eh bien, là, c'est un véritable défi. Alors, il faut rassurer, en fait, les collaborateurs, leur disant « non, non, mais tout va bien se passer », n'étant soi-même, finalement, pas complètement sûr, vraiment, du lendemain. Mais voilà, on y va par la foi. Et puis, je me rappelle aussi un changement majeur qui a eu lieu dans ma vie. C'était il y a un certain nombre d'années de cela, quand j'étais jeune diplômé, mon premier emploi. Eh bien, ce premier emploi, en fait, m'a conduit en Allemagne. Et voilà, je parlais allemand et j'étais partant pour ce qu'on appelle, en fait, le volontariat du service national en entreprise. Voilà, donc c'était à la place du service national, qui était obligatoire à l'époque, de faire un temps de service dans une entreprise française pour l'aider à se développer à l'étranger. Et donc, j'avais choisi cela et je suis allé en Allemagne. Et pendant les premiers mois, en fait, c'était vraiment pas quelque chose de facile. J'étais entouré, en fait, de personnes qui ne parlaient que l'allemand. Moi, certes, j'avais appris l'allemand au collège, à l'école, enfin, je veux dire, au lycée. Donc, j'étais censé parler allemand. Mais vous savez, quand vous êtes confronté à la réalité quotidienne, j'ouvrais la télévision, par exemple, pour suivre le journal télévisé, c'était quand même pas évident. Voilà, donc un sentiment, en fait, vraiment de changement fort, de solitude aussi. Et puis, peu à peu, eh bien, le Seigneur a béni. Et c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Et on est reparti donc avec Anne-Marie de l'Allemagne, où elle m'avait rejointe, eh bien, avec une richesse de vie que nous n'aurions pas vécue si je n'avais pas fait le choix d'aller en Allemagne ne connaissant personne et vivant tout d'abord une situation un peu étrange de solitude et quand même pas très facile. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des craintes, mais sont-elles vraiment fondées ? Le changement, oui, c'est un contexte en fait de remise en question. Et à l'Église de Paris, en fait, nous sommes en train de cheminer beaucoup avec David Brown, qui est responsable de la commission évangélisation du CNEF et qui a aussi tout un rôle en fait par rapport à la revitalisation d'églises en Europe. Et en fait, il écrit donc régulièrement des newsletters sur le sujet de la revitalisation. Et en fait, il me semble que dans le changement, il y a quelque chose qui est qualifié de l'aversion aux pertes. Et ce qu'il écrit, en fait, c'est que ce phénomène est expliqué donc en détail dans le best-seller international écrit par Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, dans lequel il démontre que les pertes ont plus d'importance que les gains. Intéressant. Les pertes ont plus d'importance que les gains. Il semble que la douleur de la perte est psychologiquement deux fois plus forte que le plaisir du gain. Les gens sont plus disposés à se battre pour éviter une perte, regardez l'actualité en France parfois, que pour réaliser un gain. Voici un exemple typique cité dans le livre. On vous propose de parier à l'aide d'une pièce de monnaie. Si la pièce indique pile, vous perdez 100 dollars. Si la pièce indique face, vous gagnez 150 dollars. L'accepteriez-vous ? Les données expérimentales montrent que pratiquement tout le monde refuserait. La peur de perdre est plus intense que l'espoir de gagner. C'est paradoxal parce que statistiquement, en fait, on sait bien qu'au bout du compte, en fait, forcément, on gagnerait. Voilà la réalité. Dans une église, les gens sont habitués à faire des choses d'une certaine manière, dans notre vie personnelle, et craignent souvent les nouvelles idées, même si elles semblent positives. Un changement de style de culte, par exemple, l'introduction de groupes de maison, l'utilisation de la technologie, etc., etc. Voilà, vraiment, c'est dans la nature humaine que cette difficulté d'accepter le gain, finalement, qu'un changement peut opérer, si nous ne percevons pas le côté vraiment significatif en fait, de ce gain. Donc il y a une peur de l'inconnu qui est là face au changement. Alors j'aimerais dire surtout que changer, c'est avant tout changer de regard. Alors pour introduire cette partie-là, j'aimerais lire un extrait en fait, d'une fable de La Fontaine, qui s'appelle La Besace. Alors voilà, c'est quelque chose en fait de La Fontaine, donc de païen, de pas croyant, mais je pense qu'il peut vraiment en tout cas nous interpeller. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans un composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur, je mettrai remède à la chose. Venez, singe, parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait ? Moi, dit-il, pourquoi non ? N'ai-je pas quatre pieds, aussi bien que les autres ? Mon portrait, jusqu'ici, ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère, l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il veut me croire, il ne se fera peindre. L'ours, venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut. De sa forme, il se loua très fort, glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, et que c'était une masse informe, et sans beauté. Voilà, etc., etc., etc. Vous comprenez le principe. En fait, chaque animal, et on sait bien qu'avec La Fontaine, il y a toujours la correspondance avec ce que peuvent penser les êtres humains. Eh bien, en fait, chaque animal, finalement, se trouve très bien. N'a rien véritablement à se reprocher. Mais par contre, tel animal d'à côté, non, lui, en fait, il n'est pas parfait. Est-ce que ça ne nous parle pas parfois de notre regard envers nous-mêmes ? Oh, finalement, non, nous sommes très bien. Mais telle personne, elle pourrait quand même changer, ne plus dire cela ou ne plus faire ceci ou cela. En réalité, je crois que cela parle effectivement de nous. Et il n'y a pas, je dirais, les sujets ne manquent pas où nous pouvons nous plaindre finalement des autres. Chacun y va de son couplet en pensant ce qu'il faudrait améliorer à tel ou tel endroit, mais sans personnellement se remettre en cause, alors que c'est véritablement là, en fait, la question. J'aimerais, à propos du changement de regard, vous lire en fait une anecdote qui nous est rapportée par Christian Sêtre. Voilà, c'est un homme en fait qui marchait sur le trottoir à côté de sa femme et elle lui parlait. Quoi de plus, je dirais, normal et faisant partie du quotidien. Mais voici, il était irrité parce qu'il ne comprenait qu'un mot sur deux de ce qu'elle disait, à cause du bruit des voitures qui passaient. Puis le trottoir est devenu plus étroit. Et il marchait maintenant derrière elle. Elle continuait de lui parler. Son irritation grandit encore un peu plus, car il ne comprenait presque plus rien de ce qu'elle disait. Soudain, une pensée traverse son esprit. Il y a tant de couples qui ne se parlent plus. Et toi, tu as la chance que ta femme te parle, même au milieu de la circulation. Ce fut un rayon de soleil. Son irritation disparut et il fut rempli de joie. Changement de regard, changement d'analyse de cette situation. Beaucoup de difficultés que nous pouvons rencontrer parlent davantage de nous-mêmes en réalité que des autres. Le problème n'est pas forcément les autres, mais plutôt la manière dont nous abordons les autres ou la situation à laquelle nous sommes confrontés. La culture chinoise a bien compris quelque part cela. Quand il est question de crise, en réalité, il y a deux pictogrammes qui signifient crise. C'est l'adjonction de ces deux pictogrammes qui signifie la crise, donc en chinois. Le premier pictogramme signifie danger, le deuxième opportunité. Le changement fort provoqué par une crise, eh bien, c'est à la fois un danger, source de danger, mais aussi une opportunité. Alors, face au changement, eh bien, je dirais ce matin que votre cœur ne se trouble pas. Comme il est dit dans Jean 14, verset 1, mais face aux situations dans lesquelles nous nous pouvons trouver, eh bien, tout simplement de regarder à Dieu et d'avoir cette confiance que Dieu pourvoira. Et puis proclamer, en fait, tout simplement la vérité de la parole de Dieu par rapport à notre vie, dans les situations que nous pouvons rencontrer, par rapport à nous-mêmes, notre famille. Billy Graham, que nous aimons beaucoup, à qui la question avait été posée, est-ce qu'il était optimiste ? Et finalement, la réponse a été la suivante, j'ai lu plusieurs fois la Bible et je sais que tout finit bien. Alors, quels enseignements pour nous ? Eh bien, je crois, le premier d'entre eux, ne pas vouloir éviter le changement, mais bien au contraire, en fait, le chérir, le rechercher, le vivre, ne pas laisser passer les occasions de changer. Bien sûr, par la grâce de Dieu, parce que nous-mêmes, c'est compliqué. Et puis de considérer en fait le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, globalement, je le crois, comme vraiment un temps propice pour évoluer. Quand je dis globalement, oui, dans la société, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, le contexte de la pandémie, contexte qui a poussé, en fait, à travers cette crise, à beaucoup, beaucoup d'évolutions, et bien que nous puissions vraiment être réceptifs aussi à ce que l'Esprit a à nous dire aujourd'hui. Vivre tout cela par la grâce de Dieu, avec lui, et nous approcher de lui pour vraiment rechercher, en fait, ce qu'il a à nous dire. Être certain en tout cela que le changement, eh bien, c'est une source véritablement de vie. Et tout cela, c'est la Bible qui nous le dit, avec les versets, les exemples que nous avons pu voir au début. Ce n'est pas juste le changement, c'est maintenant. Ce n'est pas juste, en fait, un programme politique ou bien un vent, en fait, qui traverse la société aujourd'hui, non. Mais je crois que c'est un message, en fait, profondément biblique que celui du changement. Nous avons besoin d'un changement profond dans nos vies et nous avons à le rechercher. Je vous propose de prier juste quelques instants. Seigneur, nous te remercions parce que nous voulons, Seigneur, à la mesure des Écritures, eh bien, laisser cette petite voix parler à nos cœurs aujourd'hui. Nous voulons te laisser parler par rapport au changement que tu veux proposer pour nos vies personnelles, ecclésiales, sociales. Seigneur, nous sommes devant toi et face aux opportunités de changement, eh bien, nous te demandons de nous parler, de nous montrer l'importance de prendre position, l'importance de venir à toi comme cette femme avec la perte de sang et de te demander vraiment un changement profond. Alors Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin, tu vois nos vies. Nous ne voulons pas attendre le changement d'ailleurs, des autres, mais nous nous plaçons devant toi et te demandons cette grâce de pouvoir évoluer, de pouvoir changer, de pouvoir, Seigneur, être transformé par ton esprit. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen.